14, versets 1 à 4. Et je vous invite à garder vos yeux sur l'actualité, sur tout ce qui se passe dans le monde. C'est possible que Jésus revienne dans notre génération. La Bible, elle parle de Gog et Magog. Gog et Magog, la Russie, la Chine. Et on voit que les nations, comme la parole de Dieu le dit, les nations sont en train de se rassembler autour d'Israël, dans ce coin perdu. Et c'est aussi un signe que la parole nous dit que c'est aussi un signe que le Seigneur reviendra. Pardon. Encore un morceau de pain. Reviendra régler ses comptes avec le monde. Mais nous gardons vraiment notre joie parce que nous avons une espérance qui est vivante et nous savons d'avance que tout ce qui va se passer est prévu dans la parole de Dieu, que le plan de Dieu va s'accomplir. Et nous sommes dans la joie parce que nous savons que lorsque le Seigneur Jésus reviendra, eh bien, la misère dans ce monde prendra fin et nous pourrons être bénis parce que Dieu va créer une nouvelle terre, des nouveaux cieux où les enfants de Dieu vont habiter dans cette nouvelle Jérusalem céleste qui descendra sur cette nouvelle terre. Alors, Jean chapitre 14, versets 1 à 4, le Seigneur Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle belle parole de réconfort. Quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir, d'être en train de nous préparer une place. Merci pour toutes ces demeures, Seigneur, dans le ciel, qui nous attendent. Mais aussi merci pour la félicité éternelle. Merci parce que le ciel est un endroit où tout est parfait. Et Seigneur, nous voulons garder vraiment nos yeux là-haut, et non pas ici-bas, Seigneur, parce que notre espérance, elle se trouve dans le paradis, dans le ciel, elle se trouve sur toi. Ô Jésus, merci de nous avoir révélé ton amour un jour. Merci de nous avoir montré combien tu nous aimais. Et cette croix derrière moi nous rappelle, Seigneur, que tu as payé un lourd prix pour nous libérer, Seigneur, de l'esclavage dans lequel nous étions. Seigneur, tu vois ces gens qui sont dans cette salle ce matin. Seigneur, tu connais les besoins de chacun. Tu sais aussi, Seigneur, que dans notre nature humaine, nous pouvons résister à ton message, nous pouvons résister à ta parole. Seigneur, nous te demandons de faire tomber toute forteresse qui pourra empêcher, Seigneur, que quiconque dans cette salle puisse prendre cette liberté de recevoir pleinement, non seulement ton message, mais aussi la personne de Jésus-Christ, si ce n'est pas le cas. Bénis ta parole, Seigneur, parle à travers ton serviteur puisse s'effacer, que ton Saint-Esprit puisse agir avec puissance et que tu puisses manifester ta présence au milieu de ton peuple. Et le peuple de Dieu dit, Amen, Amen. Amen. Il faut dire que nous avons très peu d'informations concernant le ciel. La Bible nous en dit plus sur ce qu'il n'y aura pas dans le ciel, que sur ce qu'il y aura dans le ciel. Pourtant, elle nous fournit tout ce dont nous avons besoin de savoir sur le ciel, et ce qu'elle nous révèle nous laisse dans l'émerveillement et bouche bée. Il faut aussi mentionner que Dieu nous a délibérément caché certaines choses sur le ciel. Par exemple, lorsque l'apôtre Paul fut enlevé jusqu'au plus haut des cieux, il dit, je ne sais pas si c'est vraiment, j'ai été vraiment enlevé ou si j'ai eu une vision, Dieu seul le sait, mais il dit qu'il fut enlevé jusqu'au paradis. Là, encore une fois, il dit, je ne sais pas si c'était dans mon corps ou sans mon corps, c'était une vision, mais il dit, Dieu seul le sait. Et là, il dit qu'il va entendre des paroles inexprimables. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, il dit, je vais entendre des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à aucun être humain de répéter. Alors Dieu lui dit, écoute bien, Paul, je t'ai révélé des choses que tu dois garder secrètes, tu dois les garder pour toi, ce que je t'ai dit. Frères et sœurs, Dieu a préparé quelque chose de merveilleux pour chacun de nous dans cet endroit appelé le ciel. Malheureusement, il faut dire que ce ne sont pas tous ceux qui parlent du ciel qui vont entrer un jour au ciel. Ce matin, nous allons prendre un peu de temps, pour réfléchir sur le ciel, et j'aimerais vous transmettre certaines réalités sur le ciel. Voici la première réalité concernant le ciel. Et on a un site Internet pour ceux qui ne le savent pas, et je vous invite à aller sur le site Internet à partir de mardi pour avoir le message complet. Ce matin, on est quand même limité dans le temps. Je sais à peu près déjà combien ça va prendre de temps pour donner le message. Mais si vous voulez avoir le texte complet, en fait, tout le message, eh bien, vous irez sur le site Internet de l'Église. Vous tapez simplement « Église de Delain » sur Google et on vous dirige vraiment sur le site. Mais je dois faire des coupures dans chacune, parce que j'ai sept réalités à vous parler et je dois faire quand même des coupures dans chacune, des sept. Alors, le ciel. Première réalité, le ciel est un lieu bien réel. Le ciel est un lieu bien réel. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 2 à 4, Paul dit qu'il a été ravi jusqu'au troisième ciel. Que veut-il dire lorsqu'il parle du troisième ciel? Il est bon de rappeler, frères et sœurs, sans rentrer dans tous les détails, il est bon de rappeler qu'il y a trois cieux. Lorsque la Bible parle des oiseaux qui volent dans le ciel, cela correspond au ciel atmosphérique. Jérémie, chapitre 15, verset 3. Lorsque la Bible parle des étoiles qui sont dans le ciel, cela correspond au ciel stellaire. Et finalement, lorsque la Bible parle du troisième ciel, elle parle de l'endroit où se trouve la demeure de Dieu. Ce qui est extraordinaire, Paul dit, j'ai été transporté, enlevé, transporté jusqu'au troisième ciel, là où se trouve le paradis. C'est extraordinaire. Extraordinaire que Paul ait été, que ce soit dans son corps ou dans une vision, Paul est entré dans ce lieu, dans le troisième ciel. Et le Seigneur lui a révélé des choses et il dit, écoute Paul, tu ne dois pas dire ce que tu as vu, je te défends de le dire, tu le gardes pour toi. J'ai l'impression que Paul avait aussi besoin d'être encouragé parce que Paul a eu un ministère unique parmi les païens. Et Paul, c'était un encouragement extraordinaire pour Paul. Maintenant, pourquoi Dieu ne nous a pas tout révélé? Frères et sœurs, si Dieu... Et c'est vrai qu'on court après ça. Hein? Il y a des gens, tu parles avec des gens, puis tu as l'impression qu'ils ont vécu au ciel une dizaine d'années, ils sont en train de te raconter un roman concernant le ciel. Et on a beaucoup d'imagination pour nous dire ce qui se passe au ciel. Mais si le Seigneur nous avait tout raconté, ce qui nous attend, ce qui se passe au ciel, on n'aurait pas besoin de la foi. On n'aurait pas besoin de la foi si on savait tout. Hein? Et Romains, Hébreux chapitre 11, verset 1, nous dit quoi? La foi, c'est... Oh, ça parle pas fort, Ernest! Voilà. Et c'est à cause de leur foi, le verset suivant, c'est à cause de leur foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Et c'est à cause de leur foi que les gens d'aujourd'hui sont aussi approuvés par Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et c'est la foi qui sauve, c'est la foi qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Pas dans une église, pas dans un pasteur, la foi en Jésus-Christ. Amen! Ça, c'est vraiment important qu'on puisse se souvenir de ça. Et Paul dit qu'il a été ravi jusqu'au troisième ciel. Il y a quelque part un lien bien réel où Paul aurait pu aller dans son corps, là même où Jésus s'y trouve. Quelqu'un a dit de ces trois cieux que nous pouvons voir le premier ciel, lorsqu'il fait jour, que nous pouvons voir le deuxième ciel lorsqu'il fait noir, et que nous pouvons voir le troisième ciel par la foi. Amen. Le Seigneur est vraiment dans le troisième ciel, il demeure, sa demeure, elle est là, il est sur son trône, et il régit la terre entière, et il n'y a personne, peu importe les complots de nos grands de ce monde, le plan de Dieu va s'accomplir parfaitement. Et il va s'accomplir parfaitement en Jésus-Christ. Moi, j'aime bien ça, le premier ciel, le jour, le deuxième, c'est-à-dire le ciel stellaire, c'est la nuit, ce sont les étoiles, les astres, on voit ça de nuit. Et le troisième ciel, eh bien, voir, s'imaginer la demeure de Dieu, Dieu sur son trône, depuis qu'on puisse voir ça par la foi. Chers amis, le ciel est un lieu bien réel. Et ne pensez pas que le ciel est un endroit nébuleux et gazeux, une illusion, un conte de fées ou une légende. Non, le ciel est un lieu bien réel. Et un jour, vous vous retrouverez là, dans ce lieu, dans votre corps ressuscité. Et vous y marcherez avec des nouveaux pieds. Bonne nouvelle pour ceux qui ont des corps aux pieds, vous en aurez plus. Vous en aurez plus, ceux qui ont des problèmes avec des corps aux pieds. On appelle ça des oignons ici. Au Québec, on dit que c'est des oignons, voilà. Dépendant de la grosseur de l'oignon que vous avez, au ciel, vous en aurez plus. C'est un corps parfait, extraordinaire. Non? Ah, on ne peut pas s'imaginer. On ne peut pas s'imaginer, frères et sœurs.
Le ciel est un lieu bien réel, c'est quelque chose qui est sur la carte de Dieu. Le ciel est quelque chose qui est sur la carte de Dieu. La deuxième réalité concernant le ciel, c'est que ceux qui sont sauvés vont immédiatement au ciel après leur mort. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8, Paul dit, « Nous sommes donc pleins de confiance. » J'aime bien le langage audacieux de Paul ici. Paul dit, « Nous sommes toujours pleins de confiance, car nous savons qu'en demeurant dans son corps, nous demeurons loin du Seigneur, c'est-à-dire loin de la présence physique du Seigneur Jésus. Car nous marchons par la foi, dit Paul, et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Frères et sœurs, vous pouvez aller au ciel dans votre corps ou sans votre corps. C'est-à-dire que si vous mourrez avant que Jésus revienne, vous allez aller au ciel sans votre corps. Mais si Jésus revient aujourd'hui, vous allez monter au ciel dans votre corps, ressuscité, transformé. Il est bon de rappeler que les chrétiens vont immédiatement au ciel après leur mort. C'est important de se rappeler qu'on s'en va au ciel après notre mort. Certains pensent que l'âme dort dans la terre et attend la résurrection, mais il n'en est pas ainsi, bien-aimés. Le corps attend la résurrection des morts et va immédiatement auprès du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit au malfaiteur sur la croix? Il a dit, « En vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le ciel. Tu seras avec moi dans le troisième ciel. » Alors que Jésus baissait la tête et qu'il était sur le point de mourir, il s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant cette parole, il expira. Notre esprit, quand le chrétien meurt, notre esprit s'en va immédiatement dans la présence de Dieu. Et dans Ecclésiaste, eh bien, l'Ecclésiaste nous dit que l'esprit, quand la personne meurt, le chrétien meurt, l'esprit retourne à son créateur, chrétien ou non chrétien, soit pour l'attente du jugement, ou soit pour entrer vraiment dans le paradis, dans la présence de Jésus. Lorsqu'on était en train de lapider Étienne à cause de sa foi, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, le texte biblique nous dit, « Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Et Étienne priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Moi, c'est un texte, je l'ai déjà parlé ici, mais pour les nouvelles personnes, c'est le seul endroit où vous voyez Jésus debout à la droite de Dieu. Dans tous les passages des Écritures, Jésus est assis à la droite de Dieu. Et là, il y a son enfant qui est en train de mourir, son enfant qui est lapidé, son enfant qui va souffrir la martyre parce qu'il lui appartient. Et Étienne dit, « Je vois Jésus debout à la droite de Dieu. » Je me suis posé des questions, pourquoi Jésus est à la droite de Dieu debout? Parce que Jésus s'apprête à recevoir Étienne qui va rentrer dans le royaume des cieux. Jésus est là, il l'attend à la porte du ciel en lui disant, « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la présence de ton maître. » C'est le seul texte biblique où on peut lire que Jésus est debout à la droite de Dieu. Et quand vous allez mourir, vous qui êtes des fidèles serviteurs et servantes du Seigneur, Jésus se lèvera pour vous attendre le premier à la porte et vous dire, « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la présence de ton maître. » Amen. Quelle réception! On n'a pas besoin des anges. Notre Sauveur bien-aimé Jésus est là, il nous attend à la porte. Il nous ouvre la porte, viens bon et fidèle serviteur, viens bonne et fidèle servante, entre dans la présence de ton maître. Avez-vous déjà vu un chrétien en train de vivre ses derniers moments sur terre? Vous le voyez tourner les yeux, regarder vers le ciel. Je ne peux pas le prouver, mais j'ai le sentiment qu'il cherche, s'il ne verrait pas, cet autre monde dans lequel il s'apprête à entrer. Il viendra un moment lorsque nous sortirons de ce corps, frères et sœurs, que nous entrerons immédiatement dans la présence de Jésus dans le ciel. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, dit l'apôtre Paul. La troisième réalité maintenant concernant le ciel, c'est la suivante. Nous verrons nos bien-aimés face à face. Nous verrons nos bien-aimés face à face. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. Ah non, je vais passer par-dessus, c'est trop long ça. Nous verrons nos bien-aimés face à face. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Oui. Ouais. Est-ce que nous nous reconnaîtrons au ciel? Certainement que nous allons nous reconnaître au ciel. Rappelez-vous ce qui est arrivé au bébé que Bathsheba a eu suite à sa relation illicite avec David. Il est mort et il est maintenant au ciel. David a prié, a demandé à Dieu d'épargner la vie de l'enfant, mais Dieu ne l'a pas fait. Dans 2 Samuel chapitre 12, les versets 20 à 23. Pour ceux qui ont leur Bible, tournez avec moi dans 2 Samuel chapitre 12, les versets 20 à 23. Il est écrit ceci. David se releva de terre, se baigna, se parfuma et changea de vêtements. Puis il se rendit au sanctuaire pour y adorer le Seigneur. À son retour chez lui, il ordonna qu'on lui serve un repas et il mangea. Ses serviteurs l'interrogèrent. « Majesté, que signifie cette façon d'agir? Lorsque ton fils était encore vivant, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant qu'il est mort, tu te relèves et tu te remets à manger. » « Mais oui, répondit David, tant que mon fils était vivant, j'ai jeûné et pleuré en me disant, « Qui sait, le Seigneur se montrera peut-être indulgent à mon égard et permettra que l'enfant survive. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Jamais je ne pourrai le faire revenir à la vie. » Écoutez bien la suite. « C'est moi qui ira le rejoindre et non lui qui reviendra vers moi. C'est moi qui ira le rejoindre. » David était convaincu qu'il reconnaîtrait son fils. C'est moi qui irai le rejoindre. Et une des choses que l'apôtre Paul va dire en parlant de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ à l'église de Thessalonique, c'est ceci. Le signal lui-même, un signal donné à l'archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il est en train de parler ici de ceux qui sont présentement dans leur tombe. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous. Regardez sur quoi il met l'accent ici. Nous serons tous enlevés ensemble avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Frères et sœurs, nous reverrons un jour nos bien-aimés. Si on est tous enlevés ensemble, frères et sœurs, est-ce que vous pensez qu'on va tous avoir le même visage, on va tous avoir le même corps, qu'on n'aura plus aucune personnalité? Absolument pas, hein? Absolument pas. Votre caractère... C'est ce que Dieu veut changer, hein? C'est votre caractère que Dieu veut changer, pas votre personnalité. Votre personnalité, elle fait partie intégrante de votre âme, hein? Dieu ne veut pas vous enlever ça. C'est votre caractère que Dieu veut changer. On vit au monde avec le péché qui habite en nous, nous dit la parole, et on hérite à ce moment-là du caractère du premier Adam. Et le travail que Dieu veut faire, et je le répète depuis plusieurs semaines, Romains chapitre 8, versets 28 et 29, ce que Dieu veut faire, c'est de nous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Et pour nous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ, il doit transformer notre caractère, et ça passe par la nouvelle naissance. Donc, faire en sorte que le caractère du premier Adam disparaisse, et ça, c'est les fruits de la chair que la parole nous explique, nous donne en détail, pour faire en sorte qu'on ressemble à Jésus-Christ, développer le nouveau caractère qu'on reçoit en Jésus-Christ, et développer les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, c'est le caractère de Christ. Les fruits de la chair, c'est le caractère du premier Adam. Et c'est ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Mais votre personnalité, vous allez la garder, frères et sœurs. Je n'ai pas les versets ce matin à vous donner, mais je peux vous les donner la semaine prochaine. Mais votre personnalité, vous allez la garder. Vous allez la garder. Pas votre caractère, mais votre personnalité. Jacques Hudon, c'est Jacques Hudon. Ernestus, c'est Ernestus. Oui. On va nommer une femme aussi. Gigi, c'est Gigi. Stacha, c'est Stacha. Mais votre caractère du premier Adam, Dieu n'en a rien à cirer avec ça. Ça lui a coûté tellement cher pour essayer de le faire disparaître. Tellement cher. Ça lui a coûté tellement cher pour le faire disparaître. Et ça lui a payé tellement un prix élevé pour nous donner le caractère de Christ. Ça a coûté la vie de son fils. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 9 à 10, Paul dit, « En effet, Dieu ne nous a pas destinés à subir sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin de nous faire vivre avec lui, que nous soyons vivants ou morts quand il viendra. Rappelez-vous de quelle façon on rapportait dans l'Ancien Testament ce qui arrivait aux croyants au moment où ils mouraient. On disait d'eux qu'ils se retrouvaient avec leur peuple. Lorsque Moïse est mort, voici ce que Dieu va dire. Moïse, monte sur cette montagne et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Tu seras recueilli avec ton peuple, puisqu'on ne sait même pas où Moïse est enterré. Avec ton peuple spirituel, La parole nous dit qu'on ne sait pas où Moïse est enterré. Abraham, de son côté, savait qu'il allait avoir une réunion de famille. Dans Genèse chapitre 25, les versets 8 à 10, Abraham expira et mourut, c'est-à-dire qu'il remit son esprit. Après une heureuse vieillesse, nous dit le texte biblique, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Frères et sœurs, auprès de son peuple, Abraham a dû acheter une tombe pour Sarah. Abraham a dû être enterré avec Sarah. Où est le peuple d'Abraham? Il est enterré avec son peuple. Le père de tous les croyants est enterré, est avec son peuple. Il est recueilli par le peuple spirituel. Écoutez ce que la Bible dit concernant Isaac. Genèse chapitre 35, verset 29. Il expira, il mourut, il fut recueilli auprès de son peuple, âgé, rassasié de jours. Et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Son corps décomposé toujours quelque part sur la terre, mais il a maintenant rejoint son peuple. Il est avec son peuple. Dans Matthieu chapitre 8, verset 11, Jésus faisant référence à une réunion de famille, là, dit ceci, « Je vous l'affirme, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et prendront place à ta table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. » Frères et sœurs, si on ne se ressemble pas, on n'est pas capable de se ressembler, de se reconnaître dans le royaume des cieux, pourquoi Jésus dit qu'on va prendre place à la table aux noces de l'agneau avec Abraham, Isaac et Jacob? Pourquoi ils se sont obligés de nous rappeler, de nous dire Abraham, Isaac et Jacob? Il n'est pas obligé de nous le dire. C'est parce qu'il veut confirmer qu'ils sont au ciel? Pourquoi il nomme des noms? Si à partir du moment où on disparaît sur la terre, les noms n'existent plus, les personnalités, les caractères n'existent plus, pourquoi Jésus se sent obligé de prononcer ces noms? Parce qu'on va se reconnaître au ciel. Luc chapitre 16, le riche qui est dans le séjour des morts, du côté qui de ceux qui attendent le jugement, et Abraham qui est dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire dans le séjour des morts, en attente la délivrance par le sacrifice de Jésus. Le riche, il reconnaît Abraham. Il reconnaît Lazare. Et ils envoient quelqu'un avertir mes frères. Va leur prêcher l'Évangile pour qu'ils ne reviennent pas ici, dans ce lieu où je souffre énormément. Et il n'est pas en enfer, il est juste dans le séjour des morts. Et ils envoient quelqu'un, va leur prêcher l'Évangile, évite-leur de venir ici, c'est épouvantable ce que je vis. Et tous ceux qui meurent sans Jésus-Christ, ils ne s'en vont pas en enfer. Ils s'en vont dans ce séjour des morts en attente du jugement dernier. Ça, c'est la résurrection des injustes, qu'on appelle. Ouais. Ils vont avoir un corps comme vous. Pas glorifié. Un corps qui va subir des choses terribles. Je ne vais pas vous faire peur ce matin, mais lisez Apocalypse. Après le jugement, ils sont jetés dans un lac, dans l'étang de feu. De feu. Ils vont souffrir, ils ne pourront jamais mourir. C'est épouvantable, mais ça devrait, au lieu de nous faire peur, ça devrait nous stimuler pour partager l'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas. Moi, je suis rendu, j'ai presque les larmes aux yeux quand je regarde souvent des, pas souvent, mais quand je regarde des reportages à la télé, ou les reportages ou les résumés de matchs de foot ou de hockey, ben, moi, c'est plutôt le hockey, et là, tu vois qu'il y a un but qui est compté, puis la foule se lève, puis on applaudit, puis on sourit, puis on est dans l'euphorie, tout ça, mais je me dis, Seigneur, cette foule, elle est aveuglée, Seigneur, qui va leur annoncer l'Évangile, quoi? Ils s'en vont en enfer. Tous ces gens-là, il y a 20 000, 30 000, 60 000 personnes dans le stade. Mais ils s'en vont tous en enfer. Ce sont des gens qui s'en vont à l'abattoir parce qu'ils n'ont pas de berger, ils n'ont personne pour annoncer le message. C'est par milliers que ça part, quoi. Par milliers. Mes frères et sœurs, c'est à vous et à moi que Dieu a donné ce mandat de pouvoir annoncer l'Évangile. Sur la montagne de la Transfiguration, nous avons là un petit aperçu de ce qui attend au ciel, de ce qui nous attend au ciel, pardon, lorsque Jésus changea d'aspect devant ses disciples. Et lorsqu'il était sur la montagne, les disciples dirent qu'ils virent Élie et Moïse qui parlaient avec Jésus. Les disciples n'avaient jamais vu Élie et Moïse, puisqu'ils ont vécu à des époques très différentes. Mais ils ont reconnu Moïse et Élie. Frères et sœurs, nous allons nous reconnaître dans le ciel. Nous allons nous reconnaître dans le ciel. Alors, s'il y en a qui ont de la difficulté à digérer mon visage, ben c'est dommage, je vais être prêt avec mon visage pour l'éternité. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Il va y avoir moins de rides, mais vous allez voir mon visage pour l'éternité. La quatrième réalité concernant le ciel, il y aura une activité glorieuse dans le ciel. Il y a certains mythes qui circulent concernant le ciel, et un de ces mythes, c'est que, soi-disant, que les chrétiens vont se promener sur un nuage moelleux, avec une belle robe en laine blanche et un beau chausseron autour de la tête. Vous savez, comme si on avait fumé un joint, là, puis là, on est tout perdu, quoi. Hein? On s'en va, puis on joue de la harpe. Hein? Vous voyez ça, ces images-là? Hein? C'est pas intéressant, c'est pas une vie, ça. Hein? Ça m'intéresse pas de me promener sur un nuage, me faire le tour de la Terre, moi, une fois par année. Non. Frères et sœurs, il y aura de la musique dans le ciel, et je peux vous certifier que ce ne sera pas de la musique ennuyante. Le ciel est un lieu de repos, mais cela ne signifie pas pour autant que nous allons paresser. Avant que le péché apparaisse sur la terre, Adam travaillait dans le jardin d'Éden, et ce qu'il faisait n'était pas laborieux. Il a commencé à transpirer la sueur de son front après avoir commis le péché, mais pas avant. Il devait simplement cultiver et garder le jardin. Frères et sœurs, nous allons régner un jour avec le Seigneur. Paul dit, si nous persévérerons, nous régnerons aussi avec lui. Dans Apocalypse, chapitre 7, verset 15, l'apôtre Jean dit, en ayant une vision, qu'il voit les serviteurs de Dieu. Comment il les décrit? Ils sont devant le trône de Dieu, ils le servent jour et nuit dans son temple. Ils le servent jour et nuit, frères et sœurs. Chers amis, nous allons servir le Seigneur dans le ciel. Ce ne sera pas quelque chose d'ennuyant, ce sera quelque chose au contraire qui sera passionnant et qui sera béni. La cinquième réalité, concernant le ciel, c'est que le ciel sera un lieu où tout sera parfait. Amen. Tout sera parfait. Dieu lui-même sera avec nous. Il sera notre Dieu. Apocalypse chapitre 21, versets 3 et 4. Dieu lui-même sera avec nous. Il n'y aura plus de mort, plus de pleurs, plus de deuil, ni lamentation, ni douleur, car les choses anciennes seront passées. Voilà pourquoi Paul dit dans Philippiens chapitre 1, verset 21, que pour lui, la vie, c'est le Christ, et la mort est un gain. En quoi Paul peut-il dire que la mort est un gain? Il en a fini de lutter avec le péché. Il en a fini de voir la misère du monde. Et c'est pour ça qu'il aspire à partir tout de suite. Paul, c'est pas le gars qui veut vivre le plus longtemps sur la terre, hein? Parce qu'il dit, tant aussi longtemps que je vis ici, même si je suis fidèle au Seigneur, je vais être agressé de partout. La tentation est toujours là pour me guetter. Mais la mort, c'est un gain pour moi, puisque je laisse tout tomber ça et je rentre dans la présence de Dieu, où dans le ciel, tout est parfait, où il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de maladie. Hey! Le problème, hein, c'est que dans notre humanité, on veut tous vivre le plus longtemps possible, hein? Et en quoi la mort est-elle un gain? Parce que dans le ciel, je le répète, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de tristesse, plus de souffrance, plus de mort, plus de maladie et surtout, plus de doute. Plus de doute. Frères et sœurs, le ciel, c'est être dans la présence de tout ce qui est bon. Le ciel, c'est être dans la présence de tout ce qui est bon. Le ciel, c'est l'absence de tout ce qui est mal. Le ciel, c'est là où se trouve tout ce le cœur de Dieu. Le cœur rempli d'amour de Dieu a toujours désiré. Réfléchissez à ça. Incroyable. Tout ce que le Seigneur a toujours désiré pour vous et pour moi, ça se trouve dans le ciel. Pas sur cette grande poubelle qui est la terre, dans le ciel. On ne peut pas s'imaginer. Et le combat spirituel, c'est de garder nos yeux sur la terre. Et non pas dans le ciel. Moi, je vous invite à garder vos yeux en haut, Parce que c'est en haut que le Seigneur va revenir et pas en bas. Il est déjà monté. Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui vous aime au point de donner son propre fils pour vous? Ça, c'est aimer, n'est-ce pas? Cet amour consiste en ceci. Il a envoyé son fils qui s'est offert pour lui, et qui s'est offert en offrande pour nous, pour le pardon de nos péchés. Le ciel, c'est tout ce que l'Esprit incroyable de Dieu peut concevoir. Et finalement, le ciel, c'est tout ce que la main toute puissante de Dieu peut créer. Alors, mettez ces trois choses ensemble. Le ciel, c'est l'amour de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, et c'est la puissance de Dieu. On ne peut pas s'imaginer, frères et sœurs. Il ne faut donc pas s'étonner que l'apôtre Paul écrive que ce que nul homme n'a jamais vu et entendu, ce à quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Vous ne pouvez pas penser, vous ne pouvez pas imaginer, on ne peut pas imaginer ce qui nous attend au ciel. Et on a un ennemi en commun, un ennemi de nos âmes qui cherche à essayer de nous faire oublier ce qui nous attend au ciel. Si on ne sait pas ce qui nous attend au ciel, on sait qu'il y en a un qui nous attend, c'est la personne de Jésus-Christ, le ressuscité. Et on peut être certain d'une chose, il ne nous décevra pas. Il ne nous décevra pas. On comprend mieux pourquoi Paul dit « J'aimerais quitter cette vie pour être avec Christ, ce qui serait bien préférable. » Surtout que lui a vu. Il est monté jusqu'au troisième ciel, il a vu. Mais il va dire, oui, mais il faudrait aussi, c'est vrai que mon désir, c'est de m'en aller en haut, mais en même temps, je vois que vous avez encore besoin de moi. Donc, je vais rester. Le ciel est un lieu où tout est parfait. Pensez seulement au génie créatif de Dieu concernant ce monde. Même si la terre est entachée par le péché, lorsque vous êtes en avion, et que vous jetez un coup d'œil sur le paysage qui se trouve en dessous de vous. Vous êtes bouche bée. J'ai pris l'avion une fois pour, de Bruxelles pour aller à Nice, hein, et vous passez au-dessus des Alpes. Hein. C'est les Alpes, oui. Mais tu as l'impression que l'avion va frotter la cime, hein, tellement qu'elle est basse, quoi. Hein. Et tu regardes, mais c'est... Bon, tu prends en même temps que ça s'écrase pas, mais c'est magnifique, quoi. Tu vois l'idée, l'imagination créatrice de Dieu. C'est fascinant, quoi. Lorsque vous vous prenez dans un jardin et que vous examinez les différentes formes de fleurs que Dieu a créées, vous êtes émerveillé. Lorsque vous prenez un perroquet, vous regardez les couleurs qui sont parfaites. Du côté gauche comme du côté droit, c'est les mêmes. Ils sont à la même hauteur. Lorsque vous regardez un paon qui ouvre sa queue, mais c'est toute beauté. Hey, ça ne peut pas être le fruit du hasard, quoi. Mais vous voyez l'idée, mais l'imagination créative de Dieu. Juste après une averse, lorsque vous prenez le temps de lever les yeux vers le ciel et que vous voyez cet arc-en-ciel qui se forme, bien, vous voyez la main d'artiste de Dieu qui vient de peindre quelque chose de merveilleux au ciel, qui nous rappelle l'alliance qu'il a faite avec le monde, que jamais plus ne détruirait la terre par le déluge. Les couleurs magnifiques que dans l'arc-en-ciel. Et des fois, on a l'occasion de voir deux arc-en-ciel en même temps. Extraordinaire. Quand vous regardez les couchers de soleil, peu importe où vous êtes dans le monde, les couchers de soleil qui sont merveilleux, il y a des endroits dans le monde où vous avez l'impression que le soleil se couche juste derrière le lac. Si jamais vous allez au Québec, vous allez à Baie-Comeau, le soir, quand le soleil se couche et qu'il est d'un rouge incroyable ou orange foncé, vous avez l'impression qu'il se couche juste derrière le lac, tellement il est gros, il est immense et qui. Ah, magnifique, quoi. Extraordinaire. Même dans un monde entaché par le péché, vous avez un aperçu de la gloire de Dieu. Le ciel démontre l'œuvre parfaite du génie créateur de Dieu. Vous aimerez le ciel, frères et sœurs. Il y a plusieurs questions qu'un enfant de 4 ans se pose concernant le ciel auxquelles nous ne pouvons pas répondre. Mais je peux vous dire que le ciel est un lieu de perfection absolue. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, « Je m'en vais vous préparer une place. » Il y avait une jeune fille qui était aveugle de naissance. Pardon. Un chirurgien qui croyait pouvoir permettre à cette jeune fille de voir en parla aux parents. Et ceux-ci ont accepté que le chirurgien tente l'opération sur leur fille. Et la jeune fille fut opérée et elle sortit de la salle d'opération avec un énorme bandage sur les yeux. Puis vint le jour où on devait enlever le bandage sur ses yeux. Et la question que tout le monde se posait, c'est serait-elle capable de voir? Est-ce que l'opération avait réussi? Et on lui enleva les bandages et les tampons qui recouvraient ses yeux. Et le chirurgien lui dit, « Tu peux maintenant ouvrir les yeux. » Elle commença à cligner des yeux. Pardon. Et la première chose qu'elle vit, ce fut le chirurgien qui était devant lui, puis l'infirmière, le visage de l'infirmière, et finalement, le visage de sa maman. Pour la première fois, elle vit sur les joues de sa maman, elle vit couler une larme, des larmes qui coulaient sur ses joues. Et elle s'écria, « Maman, 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 je peux te voir. Maman, je peux te voir. » Tellement contente. Elle regardait les choses qui se trouvaient dans la chambre et que nous prenons pour acquis. Elle se rend ensuite à la fenêtre. Elle regarde à l'extérieur. Elle voit non pas le gazon, elle voit le gazon qui est vert. Elle regarde en haut vers le ciel. Elle ne voit pas le ciel, elle voit le beau ciel bleu. Elle ne voyait pas les fleurs, elle voyait les fleurs qui étaient de toutes sortes de couleurs. Puis elle court vers sa mère, elle la serre, elle la prend par la taille, elle la serre avec ses deux petits bras, elle lui dit, « Maman, 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 comme c'est magnifique, maman, tout ce que je vois! » Et la mère laissant couler des larmes abondamment sur ses joues. Des larmes de joie lui dit, « Ma petite chérie, j'ai essayé souvent de te le dire, mais tu devais le voir par toi-même. Je t'ai décrit à plusieurs reprises, mais tu devais voir par toi-même. » Frères et sœurs, lorsque nous serons au ciel et que nous irons quelque chose de semblable à notre bon Père céleste, Père, pourquoi ne nous as-tu pas dit que le ciel était cet endroit si merveilleux? Il nous dira, eh bien, j'ai essayé de vous le dire dans l'Apocalypse. Lorsque j'ai dit que les choses que vous appréciez, lorsque j'ai dit que les rues étaient pavées d'or, que les murs étaient ornés de jaspe, que les portes étaient en or, ce ne sont que des symboles, le Seigneur nous dira. Mais j'ai des choses encore plus grandes qui sont en réserve pour vous. Chers amis, le ciel est un endroit où règne une perfection absolue. Voici une sixième réalité concernant le ciel. Nous verrons la gloire de Jésus-Christ. Nous verrons la gloire de Jésus-Christ. Nous verrons Jésus-Christ dans toute sa gloire. En ce qui me concerne, le ciel n'est pas principalement un lieu, mais une personne, Jésus-Christ. Jésus a dit, « Je m'en vais vous préparer une place. » Chers amis, à quoi sert ce lieu? Afin que nous puissions y vivre? Non. Jésus dit, afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. J'attends avec impatience d'être avec Jésus. Et vous? Ah, c'est plus fort ce côté-là. Ici? Ah. Et ici? Ah, magnifique. Je peux continuer, vous m'avez encouragé. Frères et sœurs, si vous n'êtes pas impatient d'être avec Jésus, si vous vous attendez à seulement passer les vacances éternelles ou quelque chose de semblable au ciel, vous n'allez jamais vous retrouver au ciel. Parce que le ciel, c'est là où se trouve Jésus. Qu'est-ce qui fait que le ciel est le ciel? J-E-S-U-S. Jésus. Jésus. C'est être avec Jésus. Et une des grandes prières que Jésus a faites se trouve dans Jean chapitre 17. Il a dit, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » Si vous aimez aujourd'hui pour si vous aimez aujourd'hui quelqu'un qui est malade, quelqu'un à qui vous êtes attaché, que vous avez de la peine de le voir malade, et que vous priez en disant, « Seigneur, ne permets pas qu'il meure. » C'est bien de prier ainsi. Mais il faut que vous compreniez qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui prie. Et c'est Jésus. Et vous savez quelle est la prière de Jésus? Jean chapitre 17, verset 24. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés, soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. » C'est vrai qu'on prie pour nos malades. C'est vrai qu'on prie pour la guérison. Et les peu de temps que j'ai passé avec notre sœur Erna, c'était des bons moments. Et à un moment donné, Erna était malade. J'allais la réconforter en lui disant, « On prie pour vous, Erna, là, pour vous arrêter de prier pour moi. » J'attends juste de rentrer dans la présence de mon Sauveur bien-aimé. Ne priez pas pour ma guérison. Ouais. Ouais. Et d'autres chrétiens aussi. Qui disent à ce pasteur, demande pas aux gens de prier pour moi. Moi, tout ce que je veux, c'est de retrouver mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ouais. Ça, c'est des gens qui savent où ils s'en vont, hein. Ça, c'est des gens qui savent où ils s'en vont. Ce n'est pas qu'ils sont imbus d'eux-mêmes qui vous demandent de ne pas prier pour eux. C'est qu'ils ont hâte d'aller retrouver celui qui leur a donné une espérance éternelle et vivante. C'est la personne de Jésus-Christ. Chers amis, septième point et dernier point, seul, ça c'est une réalité du ciel, seuls ceux qui sont rachetés vont entrer au ciel. Comme je l'ai déjà dit, vous devez naître de nouveau pour avoir accès au ciel. Jésus a dit que personne ne peut voir le royaume des cieux s'il ne naît pas de nouveau. Et c'est très important. Et ce matin, je vais simplement ouvrir une petite parenthèse, je regarde le temps. Simplement ouvrir une petite parenthèse. Il y a peut-être des gens ici, ça fait 20, 30, 40, 50 ans qu'ils fréquentent l'Église. Est-ce que vous êtes vraiment né de nouveau? C'est extrêmement important. C'est extrêmement important, la nouvelle naissance. Parce qu'en dehors de la nouvelle naissance, il vous est impossible d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous pouvez passer pour une très, très bonne personne dans l'Église. Et si vous n'êtes pas né de nouveau, Dieu va vous dire, « Éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. » Et vous savez le danger de ceux qui, ça fait 30, 40, 50 ans, qui fréquentent l'Église, c'est qu'ils sont tellement sûrs de savoir où ils s'en vont qu'ils ne se poseront jamais la question pour savoir s'ils sont nés de nouveau un jour. Et la nouvelle naissance, c'est capital. Jésus, ce n'est pas un menteur. Et il a dit, « À moins de naître de nouveau, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Nicodème a dit, « Comment un homme peut-il faire retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois? » Non, je ne te parle pas d'une naissance humaine, je te parle d'une naissance céleste. À moins de naître de nouveau, Nicodème, nul ne peut entrer maintenant dans le royaume de Dieu. Il dit, au début, tu ne peux pas voir et après, tu ne peux pas entrer. Et c'est une question, je le fais sans l'esprit de jugement, mais parce que je vous ai à cœur. Parce que je suis votre pasteur. Sur quoi basez-vous votre assurance, frères et sœurs, ce matin, pour avoir la certitude que si Jésus venait vous chercher aujourd'hui, redemandez votre âme, sur quelle base vous appuyez-vous pour dire, moi, je suis convaincu à 100% que je rentre dans le ciel, dans la présence de Jésus-Christ. Jésus dit, vous êtes né d'en bas, vous avez besoin de naître d'en haut. Et si vous êtes né d'en haut, alors ça c'est naître de nouveau, vous avez alors un libre accès pour aller au ciel. 1 Pierre chapitre 1, verset 23, vous lirez ça à la maison, vous la méditerez, vous êtes né de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une semence immortelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. La semence de l'homme, elle crée des êtres humains, mais elle ne crée pas des enfants de Dieu. La semence de Dieu, qui est la parole de Dieu, elle crée des enfants de Dieu. Et c'est ce que Pierre nous dit. C'est ce que Pierre nous dit ici. Vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une semence immortelle, grâce à une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Permettez-moi de vous donner quelques versets de la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 7, verset 14. Jean a toujours cette vision, il voit cette grande multitude. Et l'un des anciens qui lui dit, « Qui sont ces gens vêtus de robes blanches et d'où viennent-ils? » Jean lui répondit, « C'est toi qui le sais, mon Seigneur. » Il me dit, « Alors, ce sont ceux qui ont passé par la grande persécution. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Ceux qui seront au ciel, ce sont ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau. » J'ai entendu des gens qui se vantaient d'appartenir à telle ou telle famille d'Église. Il n'y a aucune dénomination, ni aucune religion qui peut vous faire entrer au ciel. Et j'espère que c'est votre conviction profonde ce matin. Oui, mais moi je suis un baptiste. Depuis tellement longtemps, depuis ma naissance, je suis un baptiste. Avez-vous été lavé dans le sang des baptistes? Seuls ceux qui sont lavés, qui ont lavé leurs robes, qui les ont blanchis dans le sang de l'agneau, peuvent entrer au ciel. Je suis un membre de l'Église de Dlin. Je suis sur la liste des membres. Ne vous présentez jamais devant Dieu en disant qu'il doit vous laisser entrer, parce que votre nom était sur une liste de membres de l'Église. Je suis une bonne personne. Ne vous présentez jamais devant Dieu en disant que vous êtes une bonne personne, parce que vous allez l'insulter. Seuls ceux qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang d'un agneau peuvent entrer au ciel. Pardon. Jean dit en parlant du ciel dans Apocalypse chapitre 21, verset 27, « Rien d'impur n'entrera dans cette ville, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Seuls entreront ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie, qui est celui de l'agneau. » Frères et sœurs, un livre de l'Église, mon nom est inscrit, ça ne me garantit absolument rien. Ça me garantit simplement une chose, que quand je vais mourir, on va faire un gros trait dessus. Mon nom doit être inscrit dans le livre de vie de l'agneau. C'est ce livre-là qui va être ouvert. Et dans l'Apocalypse, à la fin des temps, le Seigneur dit qu'il va ouvrir le livre de vie. Et ceux dont les noms apparaissent, c'est ceux-là qui vont passer l'éternité dans la présence de Dieu. Un homme rêva qu'il était mort et qu'il était devant la porte du ciel en train de frapper sur cette porte en forme de grande perle. C'est juste un rêve. Hein? La voix à l'intérieur dit, quel est celui qui cherche à entrer au ciel et quel est le mot de passe? Et l'homme de répondre, je suis un homme de bonne valeur, qui a de bonnes valeurs. Eh bien, quel est le mot de passe pour entrer au ciel? Honnêteté! Et la voix à l'intérieur de dire, retire-toi de moi, toi qui commets le mal, je ne t'ai pas connu. Un autre homme se présente à la porte du ciel et frappe. La voix à l'intérieur lui dit, qui est celui qui cherche à entrer dans le ciel? Et quel est le mot de passe? Et l'homme de répond, je suis un humaniste. Eh bien, quel est le mot de passe pour entrer au ciel? Amour, charité, bonnes œuvres. Et la voix à l'intérieur de dire, retire-toi de moi, toi qui commets le mal, je ne t'ai jamais connu. Un autre frappa à la porte du ciel. La voix à l'intérieur lui dit, quel est celui qui cherche à entrer au ciel? Et quel est le mot de passe? Et l'homme de répondre, je suis un homme religieux. Eh bien, quel est le mot de passe pour entrer au ciel? La religion, le baptême, le culte du dimanche matin. Et la voix à l'intérieur de dire, retire-toi de moi, toi qui commets le mal, je ne t'ai jamais connu. Finalement, un quatrième homme frappa, se présenta et frappa à la porte du ciel. Tout cela n'est qu'un rêve. La voix à l'intérieur dit, qui est celui qui cherche à entrer au ciel? Et quel est le mot de passe? Et l'homme de répondre, je suis un chrétien. J'ai donné mon cœur à Jésus-Christ et je suis né de nouveau. Je ne peux dire que ceci. J'ai reconnu que le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché et que j'ai cherché à lui obéir depuis ce moment glorieux où je l'ai rencontré. Et la voix à l'intérieur de dire, ouvrez vite les portes, toutes grandes les portes et laissez-les entrer, car le royaume des cieux appartient à ceux qui lui ressemblent. Amen. Ah, frères et sœurs, ah, j'ai hâte de remonter en haut, que j'entende cette voix, et que le Seigneur qui dit, « Ouvrez toutes grandes les portes, car le royaume des cieux appartient à celui qui lui ressemble. Ah. » Et rappelez-vous cette phrase de Jésus, il parlait des petits-enfants. Pas des hommes orgueilleux qui ont une grosse tête, des petits-enfants qui viennent en toute humilité, et qui disent oui ou non, avec sincérité. En terminant, avez-vous déjà fait ce pas de foi? Avez-vous jamais dit, Seigneur, je ne m'appuie pas sur mon honnêteté, ni sur ma charité, ni sur ma religion, mais je m'appuie plutôt sur le Seigneur Jésus, mort sur la croix pour moi. Je reconnais que son sang me purifie et efface mon péché. Qui que vous soyez dans cette salle ce matin, si vous faites ce pas, je vous promets, en m'appuyant sur la parole de Dieu, que vous naîtrez de nouveau, qu'un jour vous rencontrerez le Seigneur Jésus-Christ à la porte du ciel, que nous nous rencontrerons aussi pour l'éternité et qu'une place vous attend dans le ciel. Prions. Père Céleste, je prie que plus que personne dans cette salle ce matin diront un oui éternel à Jésus-Christ pour être sauvé. Sauvé du jugement pour tous ceux qui est réservé à tous ceux qui ne t'appartiennent pas. Gardez les yeux fermés. Combien parmi vous peuvent dire, pasteur, je sais que si je meurs aujourd'hui, je m'en vais directement au ciel parce que je me suis repenti de mon péché, parce que j'ai placé ma confiance en Jésus-Christ et que je suis de nouveau, né de nouveau. Toujours en ayant les yeux fermés pour éviter tout esprit de jugement. Si telle est votre certitude ce matin, pouvez-vous lever la main? Pouvez-vous lever la main maintenant? Les yeux fermés. Pouvez-vous lever la main si c'est votre certitude ce matin? Merci. Vous pouvez baisser votre main maintenant. Si vous n'avez pas levé la main, si vous n'avez pas la certitude encore d'être sauvé, je vous invite à, si vous le désirez, pendant que les têtes sont penchées, que les yeux sont fermés, je vous invite, si vous le désirez, à régler cette situation dès maintenant avec Dieu. C'est une décision qui va décider où vous allez passer l'éternité. Je vous invite à faire cette prière avec moi pendant que les yeux sont fermés, que les têtes sont penchées. Seigneur, simplement répétez après moi dans votre cœur, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu dans mon péché. Je reconnais mon besoin d'être sauvé et que je veux être sauvé. Je reconnais que tu es mort pour moi, Jésus, pour me sauver et tu as promis de me sauver si je te faisais confiance. Je veux à partir de maintenant te faire confiance de tout mon cœur. Jésus, viens habiter dans mon cœur. Pardonne mon péché. Sauve-moi, Jésus. Je m'abandonne à toi à cet instant même. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi à la croix. Seigneur Jésus, donne-moi aussi le courage de témoigner aux autres de ce que tu auras fait pour moi. Aide-moi à ne pas avoir honte de toi. Tu es maintenant mon Seigneur et mon Sauveur. Et je veux vivre dorénavant pour toi le reste de ma vie. Non pas pour être sauvé, mais parce que je suis sauvé. Parce que tu m'as fait grâce et à cause de ta grande bonté. Je vais maintenant vivre pour toi parce que tu es maintenant mon Dieu. En ton nom, je t'ai prié, Jésus. Amen. Pendant que les têtes sont penchées, que les yeux sont fermés,